le portrait d'un incroyant. Et on va commencer en faisant la lecture des versets 1 à 16. Genèse chapitre 4, versets 1 à 16. Adam connut Ève, sa femme. Connu, c'est l'expression pour les relations intimes, sexuelles. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Abel, il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn, il est mentionné une vingtaine de fois dans toute la Bible. Toutes les mentions de Caïn dans l'Ancien Testament se trouvent dans ce chapitre 4. Je trouve ça extraordinaire. On ne parle plus jamais de Caïn après ce chapitre 4 et on n'en parlait pas juste avant. Trois mentions sont faites dans le Nouveau Testament de Caïn au chapitre 11 du livre aux Hébreux et puis les deux autres en 1 Jean et puis en Jude. Donc ces trois versets de l'Ancien, du Nouveau Testament sont au fond comme les commentaires de ce chapitre 4 de Genèse, dans lequel on trouve 17 mentions du nom de Caïn. Pas de doute, Caïn, c'est vraiment le sujet du chapitre. Et Caïn, c'est donc le premier-né. On pourrait dire c'est le premier des premiers-nés, parce que avant lui, personne n'est jamais né. Mais aussi, c'est le premier de la fratrie. Il y aura beaucoup d'autres enfants, mais ici, on nous parle des deux premiers. Ils sont dans le verset 2, il est dit, elle enfanta encore son frère Abel. Il n'y a pas de mention temporelle. Il ne nous est pas dit que longtemps après, quelques temps plus tard. Non, non. Et certains pensent que Abel et Caïn étaient des jumeaux. Pourquoi pas? Ça rend le texte encore plus fort dans les relations entre Caïn et Abel, son frère. La fin du verset 2 nous donne leur activité. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Ce sont deux professions tout à fait nobles, des professions tout à fait respectables, berger, cultivateur. Et donc pour Dieu, ce n'était pas leur vocation qui importait, mais plutôt la nature de leur offrande. Adam et Ève, ils viennent de quitter le jardin d'Éden, et mieux que quiconque, ils savent ce que c'est qu'une personne perdue. Imaginez, nous, quand on parle du paradis, on imagine, on essaie d'examiner les Écritures. Eux, ils l'ont vécu, ils y étaient. Eux, ils savent combien Satan est rusé. Ils savent combien il est menteur et meurtrier. Ils savent combien le paradis perdu était magnifique. Et combien de fois ils ont dû aborder ces choses avec leurs enfants, les mettant en garde. Imaginez, dans la même famille, deux frères qui symbolisent les deux genres de l'humanité, le croyant et l'incroyant. En Jude, chapitre 11, verset 11, je voudrais vous lire ces deux versets du Nouveau Testament qui nous parlent donc de Caïn. Un peu comme le commentaire que fait le Nouveau Testament de ce chapitre 4 de la Genèse. Il est dit ici, parlant des faux docteurs, il dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire pour l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Balaam, Corée, Caïn sont associés comme des hommes qui se sont opposés à Dieu. Et puis, dans en 1 Jean, chapitre 3, verset 12, 1 Jean, chapitre 3, verset 12, voilà le commentaire qui est fait ici. Je le reprends un peu plus haut, verset 11. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Caïn était du malin. Ça, c'est le commentaire du Nouveau Testament. Caïn était du malin, il était un incroyant, quelqu'un qui s'oppose à la volonté révélée de Dieu. Il est un jaloux, un menteur et un meurtrier. Ses œuvres sont mauvaises. Et donc, Caïn, son portrait, c'est le portrait type de l'incroyant. Et on retrouve chez les incroyants ou chez l'incroyant, eh bien, ces mêmes caractéristiques. Et donc, le sujet de ce message ce matin, c'est « Ne ressemblez pas à Caïn », comme le dit Jean. Je vous propose de voir ce matin que son offrande était inacceptable, l'incroyant a un endurcissement coupable, et puis enfin, que l'incroyant connaît un éloignement durable. Regardons d'abord l'offrande. La révélation, au fond, du caractère d'Abel et de Caïn se fait au moment où ils doivent adorer Dieu. Les deux frères agissent en sachant ce que Dieu exigeait. Dieu avait ordonné de faire des sacrifices d'animaux. À la fin du chapitre 3 de la Genèse, Adam et Ève se sont repentis de leur faute. Ils ont cru à la promesse de Dieu et puis ils ont été justifiés. Et donc Dieu les a couvert leur nudité au chapitre 3, verset 21. La Bible dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Le premier mort de la Bible, ça n'est pas Adam, ça n'est pas Ève, c'est un animal. C'est un animal qui a dû être tué pour pouvoir couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et au fond, quand Dieu fait cela, il est en train d'expliquer que pour couvrir la faute, il faut nécessairement que du sang coule. Il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui paye à notre place. Et donc, dans la compréhension qu'avaient Adam et Ève, dans la compréhension qu'ils ont transmise à leurs enfants, eh bien, il fallait, pour s'approcher de Dieu, qu'il y ait un sacrifice. C'était, au fond, une ombre de la réalité à venir. Dieu tuerait un jour un substitut pour racheter les pécheurs que nous sommes. C'était comme une démonstration de la nécessité d'une mort substitutive pour couvrir nos fautes, nos péchés. Et ce qui nous permet de dire cela, c'est Hébreux 11:4, où il est dit ici, c'est le troisième texte qui commente ce chapitre 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Pour que Abel manifeste sa foi, c'était la foi dans la révélation de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le modèle que Dieu avait donné. Et au fond, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il prend en modèle Abel en disant, il a fait simplement confiance à Dieu. Dieu avait demandé qu'il y ait un sacrifice et il a obéi. Et c'est pour ça que, contrairement à Abel, Caïn a désobéi. Abel agit par la foi, au contraire de son frère. Abel fait confiance dans la promesse de Dieu, tout comme son père et sa mère faisaient confiance. Et c'est pour ça qu'il est appelé juste. Il a été justifié par sa foi. Et Caïn, lui, il a inventé sa propre forme d'adoration. Il s'est détourné de ce que Dieu avait demandé et il a commencé à inventer sa propre manière de s'approcher de Dieu. Et au fond, il se trouve être arrogant et méprisant à l'égard de la révélation divine. Et c'est ce qui fait son caractère méchant. L'offrande de Caïn, c'est l'offrande de ses propres efforts. L'offrande de Caïn, c'est une démonstration de ses qualités, de ses mérites. Voilà ce que j'ai fait. Il cherche à établir qu'il est quelqu'un de bien. Et ça, c'est typique de l'incroyant. L'incroyant, plutôt que de placer sa confiance dans le sacrifice préconisé, il essaye d'établir qu'il est quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu. Et nous sommes, nous fonctionnons naturellement comme cela, comme Caïn, essayant de montrer que Dieu a des raisons de nous être favorables en nous-mêmes, de nous accueillir dans sa présence parce que nous sommes travailleurs ou religieux ou que nous faisons des efforts ou je ne sais quoi. Mais au fond, quand on s'approche de Dieu de cette manière-là, nous n'avons pas besoin de son salut. Nous disons, nous n'avons pas besoin de ton salut. Nous n'avons pas besoin de ton offrande, nous n'avons pas besoin de ton sacrifice, nous n'avons pas besoin de ton secours, nous n'avons pas besoin de ta grâce. Nous sommes indépendants. L'offrande de l'incroyant est inacceptable. Elle est inacceptable, irrecevable par Dieu. Remarquez que Dieu, dans notre texte, il dit que Dieu porta un regard favorable à Abel, sur Abel et sur son offrande. Et il fait de la même manière, il dit qu'il porta un regard défavorable à Caïn et à son offrande. C'est-à-dire que Dieu d'abord regarde dans notre cœur. Il regarde premièrement dans notre cœur. Et son offrande était l'expression de la réalité du fond de son cœur. Et quand Dieu a vu la réalité du fond de son cœur, ça lui déplaît. Ça lui déplaît. Il ne trouve pas la foi. Alors Caïn s'irrite, hein, dans notre texte il est dit, Caïn, verset 5, fut très irrité et son visage fut abattu. Et ça, c'est typique de l'incroyant. Quand il a fait tous ses efforts, quand il a beaucoup travaillé, il a respecté toutes sortes de rites, etc. Et puis qu'on lui dit, mais ça compte pour rien. Ça, c'est irrecevable, ça, c'est inacceptable. À ce moment-là, on est irrité. Et lui, là, il est furieux. Et il ne supporte pas Dieu. Et il ne supporte pas les vrais adorateurs. Et donc, son visage est abattu. Il est profondément contrarié. Vous savez, c'est la même attitude que les pharisiens avaient du temps de Jésus. Jésus accueille une prostituée, il accueille des malfaiteurs qui se sont repentis. Et simplement sur la base de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, il les accepte, il les accueille, il les reçoit. Et ça devient insupportable pour tous les religieux qui ont fait tellement d'efforts, qui jeûnent, qui donnent, qui prient, et qui coupent les cheveux en quatre dans la loi pour appliquer la loi. Et ils sont profondément irrités. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien, ils veulent juste tuer Jésus. Les incroyants font tous leurs efforts pour tenter de se rendre par eux-mêmes acceptables par Dieu. Mais de ce fait, ils n'acceptent pas le moyen donné par Dieu pour être acceptables. Au verset 6... C'est beau, c'est l'Éternel qui vient vers Caïn, et on pourrait dire, malgré l'attitude vraiment opposée de Caïn, Dieu fait le premier pas vers Caïn. Et c'est lui qui initie le dialogue, puis lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Quand Dieu pose des questions, il connaît déjà les réponses. Mais c'est simplement qu'il veut qu'on exprime la chose. Finalement, Dieu, il encourage Caïn à revenir. Il dit, Caïn, tu n'as pas besoin d'être irrité. Fais simplement ce que je te demande. Accepte simplement de t'approcher de moi au travers d'un sacrifice. Verset 7, il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et Dieu, il rappelle à Caïn, si tu m'obéis, si tu offres le sacrifice d'animaux qui est exigé, ton offrande sera acceptée, elle aussi. Et puis on sera en communion. Et tu seras en communion aussi avec ton frère. Ce n'était pas par favoritisme ou par dédain par rapport à l'activité de Caïn, ni à cause de la mauvaise qualité de ses produits que Dieu avait rejeté son sacrifice. Non, Dieu dit à Caïn, tu peux te repentir. Tu n'as pas besoin d'être dans la colère. Fais ce qui est juste devant moi. Reconnais que tu n'es pas juste et qu'un substitut est nécessaire pour t'approcher de moi. Offre-moi ce que je t'ai prescrit. Et puis Dieu avertit Caïn. Il dit, tu sais Caïn, tu as un choix. Mais sache que si tu agis mal, c'est-à-dire si tu refuses de te repentir, si tu refuses de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, le péché va se jeter sur toi. Tu vas connaître une vie de conflit. Et finalement, tu vas perdre la bataille. Il lui dit, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Comme un lion qui est rugissant, le péché est là prêt à s'emparer de Caïn. Il avait employé la même expression en Genèse chapitre 3 au verset 16. C'était lorsqu'il a décrit la malédiction de la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y avait une belle harmonie dans le couple, et le péché a détruit cette harmonie. Et l'épouse, ici, a envie de prendre son mari de haut, de le dominer, de le diriger. Et Dieu dit, mais il va dominer sur toi. Et ça crée toutes sortes de tensions dans les couples, et c'est ce qu'on peut chacun observer, cette lutte, cette bataille qu'il peut y avoir dans les couples. Ici, Dieu est en train de dire, cette bataille, si tu endurcis ton cœur, cette bataille va être constante dans ta vie. Tu vas toujours avoir une lutte permanente. Caïn rejeta les conseils de sagesse que lui prodiguait Dieu lui-même. Il rejeta le bien, refusa de se repentir, et ainsi le péché bondit sur l'occasion et il fit de lui le premier des assassins. Verset 8. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je trouve ça extrêmement triste. Pourquoi Caïn tue-t-il son frère? Parce qu'il a refusé d'écouter Dieu. Parce qu'il a endurci son cœur au moment où il savait qu'il pouvait encore se repentir et retrouver la communion avec Dieu et avec son frère, il s'est endurci. Vous savez, il y a dans nos vies des moments où tout peut basculer vers le meurtre, vers la destruction, si nous n'écoutons pas l'appel de Dieu à pratiquer l'Évangile, à reconnaître nos torts, à nous humilier, à reconnaître que nous ne sommes pas bons, mais que Dieu nous rend acceptables parfaitement par l'offrande de Christ, le sacrifice parfait. Combien de fois dans des familles, dans des couples, dans la vie de chrétien, entre frères et sœurs, dans toutes sortes de situations, vous savez que si vous vous humiliez, vous savez que si vous acceptez la voix de Dieu, si vous acceptez de pardonner, vous allez être délivré. Mais il y a cette tension dans nos cœurs. Et parfois, il y a cette lutte-là. Je veux quand même avoir raison. Non, c'est moi qui c'est moi qui ai raison. Et il y a cette tension dans nos cœurs. Ici, c'est, pensez à ce verset, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, il veut te détruire, il veut ruiner ta vie, ruiner ta communion avec tes frères et sœurs, ruiner ta communion dans ton couple, ruiner ta relation avec Dieu, il veut que tu endurcisses encore ton cœur pour finalement conduire ici à un meurtre, Dans le Nouveau Testament, Paul interpelle ses lecteurs en disant « Oh, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. » Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? Parce que nous sommes des pécheurs et qu'il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé que par la foi dans le sacrifice de Christ. Persévérer dans la voie de Caïn, c'est refuser de reconnaître que nous avons besoin de Christ. C'est mépriser l'offrande de Christ. Y a-t-il une offense plus grande que celle-ci qu'on puisse faire à Dieu? Non. C'est pour ça que c'est terrible. L'endurcissement coupable de Caïn. Enfin, la voix de l'incroyant provoque un éloignement durable de Dieu. Là encore, c'est au verset 9, c'est l'Éternel qui vient vers Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? J'aime encore cette pensée-là. C'est encore là, même après le crime, même après le meurtre. Il lui dit, tu peux encore venir dans ma présence, tu peux encore dire, j'ai fait ça. Tu peux encore venir dans la lumière, tu peux retrouver de la communion. Paul, il dit aux Romains, il dit, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Je trouve Dieu est comme, il nous montre qu'il est inlassable dans sa volonté d'avoir relation avec nous. Il est prêt encore à pardonner, il est prêt encore à relever nos têtes abattues. Où est ton frère? Ah, Cain, lui, il a nettoyé la scène du crime. Il a fait disparaître le corps et il dit, les yeux dans les yeux, suis-je le gardien de mon frère? C'est terrible, c'est extrêmement sarcastique. C'est aussi une conduite insensée devant le Dieu qui sait tout et qui voit tout. Quand on choisit la voie de Cain, on opte pour la voie du mensonge, on opte pour la voie qui conduit à d'autres péchés et d'autres péchés encore. Et c'est, on voit cet éloignement durable que prend Cain. Et Dieu lui pose encore la question, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Encore à ce moment-là, Cain peut reconnaître son crime. Il peut venir dans la lumière. Et puis Dieu met en accusation Cain. Au verset 10, il lui dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est toi le meurtrier. Pourquoi Dieu n'a pas tué Cain? Je trouve... On a pu se dire, mais voilà, il tue son frère, maintenant Dieu fait justice et il tue Cain. D'ailleurs, dans quelques chapitres dans le livre de la Genèse, il va instituer ça. Pourquoi il ne l'a pas tué? Je pense certainement à cause de sa grâce. Il est encore prêt à faire grâce. Mais aussi parce que certainement il veut responsabiliser les hommes en demandant aux hommes de rendre la justice. Hein, il va établir plus tard le gouvernement humain avec où le gouvernement doit rendre la justice pour empêcher les hommes de se venger les uns les autres. Mais je crois que la raison la plus importante pour laquelle Dieu n'a pas tué Cain à ce moment-là, c'est que Dieu veut nous donner à tous l'exemple de ce qu'est la vie d'un homme incroyant. D'un homme maudit. Il lui dit, tu seras errant. Tu seras vagabond. Et ici, c'est pas du tout la notion de nomade. C'est, tu seras errant. Tu seras un fugitif. Jamais tu ne trouveras la paix. Jamais tu ne trouveras le repos. Voilà la condition de l'incroyant, de celui qui rejette la voie de l'Évangile. Il va errer sans paix, sans repos pour son âme. Et l'éloignement de Cain se poursuit encore. Dans le passage, verset 13, il conteste le jugement de Dieu. Ça, c'est typique des incroyants. Même quand Dieu les juge, ils contestent. Cain dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Mon châtiment est trop grand. Verset 14, il dit, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Cain, il s'apitoie sur son propre sort, il se plaint de son propre sort, il refuse de reconnaître sa culpabilité, il est comme, c'est le summum de l'impertinence. Hein, la population était en train de grandir à cette époque. Verset, ça c'est une question qui est souvent posée, chapitre 5, verset 4. Il nous parle, il nous est donné, c'est une petite parenthèse que je fais ici, il nous est donné la généalogie d'Adam. Verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et puis dans le chapitre 4, verset 17, il est dit, Caïn connut sa femme. Et donc sa femme, c'est l'une de ses sœurs. Et ce n'était pas une interdiction à l'époque. L'interdiction viendra plus tard, du temps de Moïse. On trouve ça dans le Lévitique chapitre 18, à cause de la dégradation génétique. Mais il sait que, maintenant que la population augmente, il sait qu'il va se trouver quelqu'un dans la famille pour se jeter contre lui et pour venger Abel. Et donc, il craint ça. Et Dieu, alors, va, dans sa grâce encore, va mettre une marque sur Caïn, un signe distinctif qui le protégera pendant toute sa vie de la vendetta d'un des descendants d'Abel. On n'a pas idée de ce qu'est le signe, mais ce signe, en tout cas, l'a à la fois protégé d'être tué, mais aussi a toujours pointé celui-là, c'est un criminel, c'est un meurtrier, il a tué son frère, sans aucune raison. Et puis, verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » C'est terrible. « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » Il habita dans la terre de Nod. Nod, ça veut dire égarement. Il est évident que Caïn croyait en l'existence de Dieu, puisqu'il lui parlait, il lui offre un sacrifice. Il était même très religieux, et pourtant il est un incroyant. Il refuse d'écouter Dieu, il refuse d'obéir à Dieu. Abel, lui, il est un croyant. Et c'est son cœur, premièrement, qui place sa confiance en Dieu, dans les prescriptions de Dieu. Et Hébreux, chapitre 11, verset 4, dit que Abel parle encore, bien que mort. Il nous parle de la confiance que nous pouvons placer en Dieu. Il nous parle de la foi qui est le seul moyen par lequel Dieu sauve le pécheur. Alors on peut croire en l'existence de Dieu et choisir la voie de Caïn, l'incroyant. Mais aussi on peut saisir la foi d'Abel. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes tenté d'établir votre propre justice, vous faites fausse route. Vous suivez la voie de Caïn. Lorsque vous êtes irrité contre Dieu ou contre sa parole ou contre ceux qui suivent sa parole, vous faites fausse route. Vous suivez la voie de Caïn. Et vous le savez parce que votre visage est abattu. Lorsque vous refusez de reconnaître votre désobéissance ou de vous repentir, vous suivez la voie de Caïn. Lorsque vous cherchez à cacher votre péché, vous suivez la voie de Caïn. Lorsque vous contestez les jugements de Dieu, vous suivez la voie de Caïn. Et si vous persévérez dans cette voie-là, vous allez errer sans trouver le repos, sans trouver la paix, et vous allez vivre continuellement dans la crainte. Mais la Bible dit que Jésus s'est donné pour nous. Il est le sacrifice parfait, celui qui nous rend acceptables dans la présence de Dieu. Dieu dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Il y a un autre sang qui crie. Il ne crie pas vengeance. C'est le sang de Jésus-Christ. Lui, ce sang-là, il crie toute la miséricorde que Dieu est prêt encore à faire aux pécheurs. Il nous parle, ce sang nous parle de la paix que l'on peut faire par le sang de Jésus-Christ. Il nous parle du repos qu'il donne à nos âmes parce qu'on n'a plus besoin de travailler, de faire et de faire et de faire pour mériter la grâce, la faveur de Dieu. Il nous parle aussi d'une conscience qui est purifiée. Et ça, c'est ce qui nous procure une pleine assurance, une pleine paix. Ce sang de Christ, il nous crie l'amour de Dieu pour nous et son désir de nous avoir en communion avec lui. Ce sang, il nous crie de l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer nos frères et sœurs dans la foi, de couvrir leurs fautes. C'est par ce sang qu'on peut avoir vraiment la communion les uns avec les autres. Rien ne peut sauver notre âme que le sang de Jésus-Christ.